Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Ça faisait un petit bout de temps que je voulais prêter ma voix à Michel Sardou, à l'histoire incroyable de ses plus de 50 ans de carrière. Malheureusement, le diable n'a pondu qu'un seul livre sur sa vie, et qu'on n'en parle plus, paru en 2009 chez XO, et qu'on retrouve aujourd'hui chez Pocket. Et cette autobiographie, c'est peu dire que c'est un sacré foutoir. Il le dit lui-même, hein. J'ai écrit comme ça venait, je saute du coq à l'âne, et je renonce à toute chronologie. Merci Michel, vous m'avez donné du mal, mais quand on aime, on ne compte pas. À partir des mots de son livre, je suis parvenu à tracer une histoire, un peu décousue, mais c'est de sa faute. Voici Michel Sardou, par lui-même. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
C'est ma grand-mère qui arrive en premier dans mes souvenirs. Elle se faisait appeler Bagatelle. Elle dansait dans la troupe des petites femmes de Paris, l'opposé des Bluebell Girls, qui étaient grandes, blondes et toutes en plumes, alors qu'elle se montrait en frac, guêpière et chartelle fleurie. Et évidemment en barésie, montée sur des talons aiguilles rouges, avec sur la tête un chapeau claque. Son heure de gloire, à Bagatelle, fut une interprétation de Cupidon au Casino de Paris. Elle apparaissait suspendue et entièrement nue. C'était une gentille alcoolo, Bagatelle. Elle avait la cuite rigolote et inoffensive. Elle aimait les hommes, mais refusait de s'en attacher un. Et puis un soir, elle a couché avec le seul qu'elle n'aimait pas. Et elle lui a fait Jackie, ma mère. Nous n'avons jamais su d'où sortait mon grand-père. Et quand on posait la question à Bagatelle...
Oh ben c'est un sale con, c'est tout.
Un dimanche, Bagatelle m'a amené voir Piaf à l'Olympia.
Il faut que tu vois ça au moins une fois dans ta vie.
J'ignorais qui était Piaf. Et aujourd'hui, je n'ai rien oublié.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes choix. Ça commence avec toi.
Tu verras. Un jour, on écrira des livres sur sa vie. On fera des films sur elle. Et on ne retiendra que ses verres de vin rouge et sa drogue.
Elle avait bien raison, ma grand-mère. Un jour, elle a insulté un flic en lui criant « mort aux vaches » et en lui montrant son cul au beau milieu de la circulation. Ils l'ont embarquée. Et elle est morte sur le banc du commissariat de la Trinité. Mes parents étaient tous les deux artistes. Mon père Fernand était chanteur et comédien, lui-même fils de comédien, et ma mère comédienne de théâtre et de cinéma. Mes parents, je n'ai jamais eu la curiosité de les connaître. Ils étaient en tournée, et donc moi en nourrice et plus tard en pension. Combien d'années avons-nous vraiment passé ensemble? On pourrait presque les compter sur les doigts. C'était le métier. Ça, je l'apprendrai plus tard. Entre 6 et 12 ans, j'ai donc vécu dans la Meuse, à Cœur-la-Petite, chez Marie, ma nounou de la rue Fontaine à Paris.
Marie, ma belle, tu es au ciel, près du bon Dieu. Tu es au ciel. «
Marie, sa maison était en face de l'école. Elle était aussi garde-barrière. Et c'est là que j'ai appris à écrire, à lire, à compter, et aussi à décapiter des volailles et à vider des cochons. Et ensuite, j'ai passé mon adolescence en pension, notamment au Moncel, un collège de haut standing pour enfants de familles aisées. En m'y inscrivant, mes parents avaient insisté auprès du directeur. « Vous savez, notre métier, à l'un et à l'autre, voyez-vous, nous éloigne souvent de Paris. Nous ne pourrons donc pas le récupérer le week-end. Et pas non plus les petites vacances. Sauf à Noël, bien sûr. » C'est Noël que je n'ai jamais pu piffer. Les fêtes officielles m'ont toujours emmerdé. Les anniversaires, les jours de l'an, les Saint-Michel, je m'en tape. Bref, dans ce collège, régnait une organisation un poil militaire, avec levée des couleurs pour tout le monde, au garde-à-vous, suivi d'un jogging de 5 km, petit déjeuner et une douche avant d'aller en cours. Et la surprise, c'est qu'il n'y avait pas de surveillant. Il n'y avait pas de pion. Des élèves élus ou désignés veillaient au bon respect des règles, et les plus anciens prenaient en charge les plus jeunes. Au Moncel, comme je n'étais jamais collé, j'avais un régime de faveur. J'avais les clés de toutes les salles de sport, de la bibliothèque, et j'avais même le droit d'aller une heure ou deux en ville. Cela dit, jouer en Josas le dimanche, c'est pas New York, hein, mais ça m'a donné l'occasion d'aller au théâtre. C'est fou. Les gens croient que je suis entré dans la carrière par atavisme. On veut que ce soit congénital. Mes parents, j'allais les voir. Hein. J'aimais ou pas ce qu'ils jouaient. Mais on en parlait rarement. Mon envie de devenir artiste est venue d'ailleurs. Elle vient d'un de ces dimanches de solitude au collège du Moncel où je suis allé au théâtre. Une fois le matin voir Molière et une deuxième fois en soirée voir chacun sa vérité de Pirandello.
Ma belle-mère a parlé de sa fille à ces dames et à ces messieurs. N'est-ce pas?
Mmh.
Elle vous a dit que je lui défendais de la voir et de monter chez elle.
Mais absolument pas. Madame Frolla a été pour vous pleine d'égards.
Ça a été décisif. Je serai comédien. Et comme j'avais en partie la responsabilité du théâtre au collège, après le spectacle, je suis allé voir le directeur de la troupe, Jean Danet.
Bonjour maître. Je m'appelle Michel Sardou, et je suis le directeur du théâtre du Moncel.
Il m'a regardé en me souriant gentiment.
Eh bien, que puis-je pour vous, cher monsieur? J'aimerais que votre troupe donne une représentation dans notre théâtre. Mais j'ai pas d'argent.
Ah, là je vois, monsieur, que vous êtes un vrai directeur de théâtre. Malheureusement, ça ne sera pas possible cette année, mais je suis certain que nous aurons une autre occasion de nous rencontrer.
J'ai attendu 35 ans. Quand je suis devenu directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin, il est venu me voir. Il n'avait rien oublié. Mais à la longue, la règle de vie dans ce collège m'a fait péter un câble. C'était très réglementé, trop. Je ne voulais pas avoir à rendre de compte. Je ne voulais plus être un enfant.
Pauvre de moi, monsieur le surveillant des classes secondaires, passait ses nuits à espionner. Pauvre de moi, du couloir des secondes au dortoir des premières, comment les jeunes étaient couchés, bien sur le dos, les bras croisés, sur la couverture de laine, des fois qu'on aurait des idées. Pauvre taré, pauvre chimène.
Alors j'ai décidé de me tirer de ce collège. Et je l'ai dit à Isambert, avec qui je partageais ma chambre.
Et tu vas où? J'en sais rien. Mais comment tu vas vivre?
Bah, je verrai bien.
Moi aussi, je veux me tirer. Et je sais où trouver du pognon. Mon père en est bourré. Il met tout dans un coffre. Je sais où il cache la clé.
Nous avons donc cambriolé ce cher monsieur Isambert. Et après une longue nuit à Pigalle, on s'est présenté au comptoir Air France à Orly.
Bonjour. Je voudrais deux premières pour Rio, s'il vous plaît.
Mais le directeur de l'internat avait prévenu mon père. Et je me suis retrouvé face à lui, au bureau de police d'Orly.
Eh bien, puisque tu ne supportes plus les contraintes scolaires, tu débuteras au cabaret, demain. Demain soir. Ne saute pas de joie, hein. Tu seras mal payé.
C'est une des rares conversations d'homme à homme que j'ai eues avec mon père. Et avec ma mère, je n'en ai eu qu'une seule.
T'as envie d'un dessert ou le café tout de suite?
Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Si je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à 20 ans.
Je me suis marié à 18 ans, avec Françoise. En me mariant, je m'émancipais. Quelle découverte! La chair, la suavité de la peau, l'illumination du fruit tant attendu, l'acte 100 fois répété jusqu'à l'épuisement. Mais on ne vit pas d'être libre, ou d'aimer. Il faut vivre. Et je n'en avais pas les moyens. Je passais mes journées dans les bureaux d'une maison d'édition musicale où je tentais en vain des adaptations de chansons étrangères. Oui, à cette époque-là, la règle c'était de copier l'Amérique. Et le soir, j'animais des dîners-spectacles chez Patachou, au tire-bouchon des cabarets de Montmartre. Et puis j'étais un peu serveur dans le cabaret de mon père, comme prévu. Mais ça ne suffisait pas. C'est Françoise, ma femme, qui m'a sauvé la vie. Elle était danseuse, et elle a accepté de se montrer dans des boîtes où, disons, la chorégraphie n'était pas essentielle, pour que je puisse poursuivre mon travail d'écriture et mes cours d'art dramatique. Je lui en suis redevable jusqu'au dernier jour. Mais que lui ai-je rendu? Une pension alimentaire. Elle méritait mieux que moi.
On s'est aimé, puis moins aimé. Faut plus le dire, c'est arrivé. On est des gens intelligents qui n'avons pas su être heureux. On s'est tout dit, on s'est menti. Ce soir, essayons d'aller mieux.
Je lui ai laissé notre maison de Vence qu'elle aimait beaucoup. Et j'ai payé pour que mes filles suivent des études que, d'ailleurs, elles n'ont jamais voulu faire. Sandrine, l'aînée, a compris. La cadette Cynthia... Non. Cynthia, j'ignore tout de son enfance. Un jour, elle est venue vers moi. Je n'avais rien à lui dire. Elle n'a jamais accepté mon départ. Elle m'a jugé sans connaître le dossier et condamné sans écouter la défense. Je la comprends. À mes débuts, nous nous retrouvions à 4 ou 5 dans un appartement qu'avait loué Michel Fugain, quai aux Fleurs. C'était une sorte de cercle des poètes inconnus. Il y avait donc le maître des lieux, Michel Fugain, communiste tchéguevarien à mort, un assistant réalisateur trotskiste qui rêvait de devenir Godard, un comédien en attente de comédie, sans opinion, le fils d'un grand éditeur de livres très célèbre, et moi, anarchiste supposé de droite, ce qui n'a aucun sens. Fugain faisait quelques musiques. Moi, j'écoutais pousser mes cheveux entre deux cours d'art dramatique. On jouait beaucoup au trompe-couillon. C'est un jeu de cartes. Je crois que c'est Fugain qui, un jour, m'a amené chez le directeur des éditions Marine. Il partageait son bureau avec sa secrétaire. J'ai chanté trois chansons que Fugain et ses compères avaient composées.
Ils ont le cœur qui bat derrière le grand rideau. Les arlequins et montent les bravos en crescendo jusqu'au matin.
Le mec n'a pas bronché, mais la secrétaire a beaucoup aimé. Et c'est là le commencement du début. Je deviens chanteur grâce à la secrétaire des éditions Marine. Et puis, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout, j'ai cueilli une autre marguerite, Babette. On l'a aménagée dans un tout petit appartement, rue des Bellefeuilles. Tout y était minuscule, sauf le lit. Et là, Romain est né. Et puis sont arrivées mes premières royalties importantes, le fruit de mes premiers succès.
Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants. De 7 à 77 ans, elle chante, la rivière insolente.
Et l'argent est arrivé. Et nous sommes passés de 30 mètres carrés à un hôtel particulier de 3 étages, avec terrasse sur le toit. Et c'est là que Davy est né 4 ans plus tard. Et c'est aussi là que j'ai compris qu'un grand appartement ne servait à rien. Enfin, on vit dans la chambre, la salle de bain et la cuisine. Le reste, les grands salons de réception, c'est pour les réceptions. Et moi, j'aime pas les réceptions, même chez les autres. C'est dans cet hôtel particulier, en tout cas, que j'ai subi un traumatisme majeur, qui m'a persécuté toute ma vie, la phobie des photos. Je vais faire ma première couverture de Jour de France. Et un matin, je vois débarquer un photographe, son assistant, une habilleuse, deux producteurs, leur chauffeur, une maquilleuse, deux coiffeurs et mon attaché de presse flanqué de ses deux secrétaires. Le photographe inspecte les lieux. Il déplace les meubles. Je déteste qu'on touche à mes affaires. L'un des coiffeurs et la maquilleuse s'enferment avec ma femme dans la salle de bain. Et l'autre m'entraîne dans ma chambre.
Il va falloir arranger un peu tout ça, hein?
Il voulait me faire des mèches au burn pour donner du reflet à mes boucles. Je lui ai arraché le pinceau et je l'ai fait grimper au mur en le tenant par le col.
Tu te barres sur le champ! Sur le champ!
Et là, j'ai voulu voir ma femme. Un berlingot! J'avais devant moi un berlingot. Il l'avait fardé comme un gâteau d'anniversaire et coiffé comme dans un baloche du fond du Texas.
Je vais être clair! Ok? Ou vous nous prenez tel qu'on est. Ou vous vous barrez. J'emmerde Jour de France. Et vous gênez pas pour le faire savoir.
Finalement, mon attaché de presse a arrangé les choses. Et on a fait la couverture. Alors, tous ceux qui me rabâchent, mais pourquoi vous souriez jamais sur les photos? Ce qui est faux. Je dis, expérimentez un jour une séance de photos montées. Vous verrez.
Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary.
C'est la mère Charlot, Annette Charlot, qui m'a appris à chanter avec sa méthode de yoga couillu. Et c'est la parolière Vlin qui m'a fait aligner mes premiers vers.
Alors pour écrire une chanson, il y a un principe. Au couplet, le cas particulier, et au refrain, le cas général. Entendu?
Et c'est elle qui m'a appris à dire « je » dans mes chansons. Ce qui a été la source de beaucoup de malentendus. Le public pense que comme le chanteur a écrit la chanson et que c'est lui qui la chante, c'est forcément ce qu'il pense, et donc ce qu'il est. Il zappe complètement le fait qu'on peut raconter une histoire, exprimer une idée qui n'est pas personnelle. Et puis, nous n'avons que 25 ou 30 lignes pour raconter une histoire dans une chanson. Et pour peu que le refrain soit répétitif, il en prend 12. 25 lignes, c'est rien du tout. Et comme les gens n'écoutent pas mais entendent, et comme ils font la 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 quand ils oublient les paroles, eh bien c'est l'auberge espagnole. Ils mettent dans les chansons ce qu'ils veulent. Ils lui font dire ce qu'ils n'ont pas compris. Ma chanson Le France, par exemple, fut un engagement totalement accidentel.
Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie.
Je me souviens, je l'ai écrite dans un appartement que j'avais à la montagne. Je me suis mis à poil, comme toujours. Et j'ai pondu le texte en quoi ? 2 heures. Pour moi, ça n'était qu'une chanson nostalgique. Mais j'ai réveillé le drapeau, sans le vouloir. La droite giscardienne m'en a voulu, et j'ai eu droit à un redressement fiscal. Et un jour, en concert à Saint-Nazaire, la CGT m'attendait au grand complet. Et ils m'ont embrassé. Et moi, à l'oreille, je leur ai dit, « Tu sais que t'embrasses un nazi, camarade ?» Depuis le temps qu'il me traitait de réac, c'était fascinant. J'avais droit à ma petite revanche.
Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté.
Pour mes chansons, j'aime bien la formule qui consiste à se contredire d'un texte à l'autre. Ça m'arrange d'être quelqu'un d'autre. Les balles populaires, par exemple, sont nées à contre-cœur.
Dans les balles populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, tourne, tourne, tourne bien. Du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi.
Cette chanson-là me plaçait dans une catégorie qui n'était pas la mienne. Populaire certainement, mais pas n'importe comment. Alors le succès a fait passer la pilule, ok. Mais il a fallu remettre ça sous une autre forme. Les producteurs exploitaient le filon, c'est tout. Ils se foutaient complètement de mes aspirations. Les producteurs, si la merde donnait de l'or, ils en feraient des conteneurs. Eh bien moi, j'ai tout envoyé paître. J'ai pris le contre-pied de tout ce que j'avais sorti avant. Et je suis devenu quelqu'un d'autre. Toujours sur le même sujet, c'est-à-dire cette façon de ne pas dissocier l'interprète de ce qu'il chante. Beaucoup ont pensé que le rire du sergent était une histoire vécue.
Je suis arrivé un beau matin du mois de mai, avec à la main les beignets que ma mère m'avait fait. Ils m'ont demandé mon nom, mon métier, mais quand fier de moi j'ai dit artiste de variété. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi,
rien de tout cela ne m'est arrivé. Au contraire, je vais vous raconter mon armée, tiens. Je suis de la classe 66. La veille de mes 3 jours à Vincennes, j'ai ingurgité des paquets de cendres de cigarettes dans des cafés froids. Et je me suis couché avec sous les aisselles 2 petits cigares mouillés. Tout ça dans le but de me rendre fiévreux pour la visite. Et j'ai échoué.
Sardou, mon garçon, vous êtes bon.
Quand je suis arrivé dans mon régiment...
Sardou, quelle est votre profession ?
Je suis artiste, monsieur.
Artiste ? Ah, le métier de PD !
Le type qui a prononcé cette phrase n'a pas eu le temps de la finir. Je lui ai pété la rotule et ouvert l'arcane. Et ils s'y sont mis à 4 pour me maîtriser. Le connard qui était sous-officier, au trou. Et donc dans l'histoire, le PD c'était moi, pas le sergent.
Depuis ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un sergent pour chanter avec moi.
Au temps du palais des congrès, Barbara s'est fatiguée de me voir toujours habillée en noir. Elle oubliait qu'elle-même, bon. La première semaine, elle est donc venue me coudre des paillettes bleues sur ma ceinture.
Eh bien écoute, ça égayera un peu cette fausse image que tu donnes de toi.
Barbara n'assistait jamais à mon spectacle. Elle l'écoutait par le mouchard. Et quand commençait le défilé des invités, elle s'enfermait dans le grand placard des costumes. Elle n'était sociable qu'une fois apprivoisée. Et elle insistait pour que je ferme ma clé, pour qu'on ne la découvre pas. Et une nuit, je l'ai oubliée. Je m'en suis rendu compte en arrivant à la voiture. Il a fallu que j'explique au vigile qu'il fallait rouvrir le couloir des loges parce que Barbara était dans le placard.
La joie de vivre, la joie de vivre, enfin, la vie.
Un jour en tournée, je passais à Reims, elle a débarqué, et on a passé la nuit ensemble. Et quand je me suis réveillé, elle était en train de regarder par la fenêtre, c'était jour de marché.
Je vais descendre t'acheter un pull.
Je me suis rendormi, et à mon réveil, j'ai trouvé le pull. Mais malheureusement, plus jamais, Barbara.
Je me lève, et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude.
Barbara était de gauche, et moi soi-disant de droite. Mais en vérité, je ne suis ni de droite ni de gauche. La droite n'a cessé de m'emmerder, et la gauche a toujours voulu me faire taire. Je dois reconnaître qu'à gauche, il y a des hommes et pas des moindres qui ont pris ma défense. En criant, ça suffit quoi, foutez-lui la paix. Alors qu'à droite, jamais. D'ailleurs, à droite, il n'y a jamais personne. Alors disons que je suis de la catégorie des anarchistes qui payent leurs impôts. Et j'oublie le médiatico-parisianisme, pour qui la vulgarité ne peut être que populaire, alors qu'ils dépensent un fric fou à présenter de la merde à la ménagère de moins de 50 ans. Ces animateurs-là, qui ont le physique de leur voix, et qui ramènent leurs fraises surtout en arbitre du bon goût, comme des ayatollahs de la culture. Les cons ne dorment jamais.
Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Bien sûr, les années ont passé. les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier, dit, qu'un jour on en a eu besoin?
Il y a des textes que je ne renie pas. Dans ces textes, j'étais moi-même, du début à la fin. Quand j'ai vu flotter le drapeau Viet Cong sur la Sorbonne, j'ai pris les boules. Et entre eux et les Américains, il n'y avait pas photo. Quand un pédophile massacre un enfant et qu'on l'envoie en cure dans un établissement psychiatrique pour le libérer guéri quelques années plus tard avant qu'il récidive de plus belle, je suis totalement pour la peine de mort. Et je le serai toujours. Mais je suis aussi pour l'interruption de grossesse et pour le mariage des tantes. C'est cohérent.
Il y en a qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris. Il y en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame et qu'entre deux Alka-Seltzer on se balade la culotte en l'air. À les entendre, on croirait bien qu'on est pinté tous les matins. Parfois, c'est pas de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris. Mais la France est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis.
Il faut que je vous dise un mot de mes fans. Il y a une catégorie, je les appelle les stationnaires. Elles sont toujours là où je suis. Mieux, elles savent toujours avant moi où je serai. Elles passent leur journée devant chez moi, en ligne, ou devant les entrées des artistes, ou les grilles des zéniths. Et je les retrouve aux portes des studios de télé. De gentilles filles, hein, peu nombreuses, une poignée, pas plus. Elles me regardent arriver et sortir. Et elles attendent un mot, un petit signe, je le leur donne. Mais un jour, je leur ai demandé, pourquoi ? Pourquoi ?
Ben, pour le plaisir, monsieur Sardou. Pour le plaisir.
Qu'est-ce qui peut bien leur manquer? Et où trouvent-elles les moyens d'être là toute la journée? À tous les concerts. J'en connais qui sont là depuis 25 ans. Et puis il y a aussi les haineux professionnels. Ils se faisaient de moi une image retouchée, et un jour ils tombent sur la réalité, et ils se rendent compte que je suis comme tout le monde.
Ah, vous êtes moins bien qu'à la télévision.
Il y aura toujours un mec à la sortie d'un concert, qui n'aura pas vu le concert, pour s'approcher de ma voiture avec un petit bout de papier.
Vous pouvez le signer. C'est pas pour moi, c'est pour ma sœur. Désolé, j'ai pas le temps. Sale con !
Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme à Menon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais, quand on a du bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît.
On me dit que la chanson va mal, mais elle ne va pas mal. Elle évolue. Le public l'écoute autrement, je n'aime pas dire consomme. Avec les nouvelles technologies, il peut faire son marché en ligne, acheter les titres qui lui plaisent. Il n'a pas besoin de l'objet, que ça nous plaise ou non. Et ça n'enlèvera jamais le besoin d'écouter un bon texte sur une bonne musique, chantée par une belle voix. Je n'aime pas les artistes de mon âge qui disent « avant c'était mieux ». D'abord parce que ça n'était pas mieux avant, souvenez-vous des âneries que nous entendions à l'époque. Et puis le métier évolue, comme il l'a toujours fait. Les artistes se succèdent et ne se ressemblent pas. On continue, on ne reprend pas. Il n'y aura jamais plus Piaf, Beko ou Brassens, mais ils sont remplacés et pas dupliqués. Le vrai succès finalement, c'est de devenir la nostalgie de demain. Au fond, cette carrière, que je n'attendais pas, m'a fait passer de bons moments. Une fois écartés les emmerdeurs, les abrutis, les escrocs, les incompétents, les jaloux, les suceurs de roues, eh ben j'ai eu une belle vie.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. C'est jeudi, il est 5h05. J'ai bouclé une petite valise et je traverse doucement l'appartement endormi. J'ouvre la porte d'entrée en retenant mon souffle et je marche sur la pointe des pieds comme les soirs où je rentrais après minuit pour ne pas qu'il se réveille. Hier soir à table, j'ai bien cru que ma mère se doutait de quelque chose. Elle m'a demandé si j'étais malade et pourquoi j'étais si pâle. J'ai dit que j'étais très bien, tout à fait clair. Je pense qu'elle a fait semblant de me croire et mon père a souri. En passant à côté de sa voiture, j'ai ressenti comme un drôle de coup. Je pensais que ce serait plus dur et plus grisant, un peu comme une aventure, en moins déchirant. Oh, surtout ne pas se retourner. S'éloigner un peu plus. Il y a la gare, et après la gare, il y a l'Atlantique. Et après l'Atlantique. C'est bizarre, cette espèce de cage qui me bloque la poitrine. Ça m'empêche presque de respirer. Je me demande si tout à l'heure, mes parents se douteront que je suis en train de pleurer. Or, surtout ne pas se retourner ni des yeux ni de la tête. Ne pas regarder derrière. Seulement voir ce que je me suis promis et pourquoi, et où, et comment. Il est 7h05. Je me suis rendormi dans ce train qui s'éloigne un peu plus. Or, surtout ne plus se retourner. Jamais. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole.
Mon histoire d'aujourd'hui était tirée de l'autobiographie de Michel Sardou et qu'on n'en parle plus, paru chez Ixo et aujourd'hui disponible chez Pocket.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.